Tant bien que mal, ils parvinrent à descendre de la courtine dans le Doris. Nils était un bel athlète blond d'une trentaine d'années, sportif et bronzé, et de plus, sans doute fort intelligent. Un scientifique au naturel. L'étudiant de Bergton se fit un plaisir de saisir Paloma par la taille pour la déposer dans la frêle barque.
« Mes hommages, Nils !» fit Bergton.
« Bonjour, monsieur le professeur !»
répondit respectueusement Nils.
« Content de pouvoir vous rendre service !»
Paloma fut déçue. Sans se soucier d'elle, les deux hommes passèrent les minutes qui suivirent à parler des bienfaits et des méfaits de la loi littorale. Nils semblait plein de dévotion pour son professeur, buvant ses paroles.
« Encore un mouton parmi le troupeau d'étudiants des amphis !» pensa-t-elle.
Elle se retourna et salua de la main le pêcheur de la courtine qui faisait demi-tour. Quelques minutes plus tard, ils touchaient les galets. Devant eux, l'accès à la valeuse de Parfonval semblait particulièrement compliqué. Divers éboulis barraient la valeuse.
« Alors, c'est cela pour Lupin ?»
demanda-t-elle.
« Oui, » répondit Bergton. « C'est ici que Lupin accoste après s'être enfui de l'aiguille creuse. Arsène Lupin baptise ce lieu Port-Lupin, mais dans le roman, la valeuse est restée entièrement naturelle. Arsène Lupin signale à Beautrelet que c'est par cette gorge de Parfonval que Cadoudal débarqua d'Angleterre avec 6 complices pour fomenter un attentat contre Bonaparte. Depuis, la valeuse s'est éboulée, mais Lupin l'a fait restaurer à ses frais.
Paloma observa la dizaine de mètres d'éboulis boueux. Elle dit d'un ton un peu sec,
Et comment on grimpe ?
À l'époque, Lupin avait fait installer une échelle de fer et un simulacre d'escalier garni d'une rampe.
D'accord. Lupin fait comme cela dans le roman, mais nous, aujourd'hui, en vrai, comment on grimpe ?
Nils prit la parole avec un grand sourire que Paloma jugea un peu bêta.
J'ai installé une estamperche.
Une quoi ?
Une estamperche, précisa Bergton en reprenant la parole. Lupin en parle aussi dans l'aiguille creuse. Une longue cordée fixée à des pieux dont cédaient jadis les gens du pays pour descendre à la plage.
Paloma commençait à être agacée par tous ces mots qu'elle ne connaissait pas et ses explications savantes. Ils s'avancèrent et virent effectivement une corde qui pendait au bas de la falaise. Volontaire, Paloma passa la première et grimpa nerveusement la petite dizaine de mètres de corde. Elle pensait que les deux hommes en contrebas devait avoir une vue imprenable sur sa paire de fesses moulées dans son short. Cela la motiva. Elle repensait à la conversation sur la loi littorale des deux hommes dans le Doris, et surtout à ce jeune Nils, qui n'avait même pas eu un regard pour elle. Parvenue en haut de la corde, Paloma découvrit une étrange valeuse, en pente très douce, qui rétrécissait au fur et à mesure qu'elle s'avançait vers la mer. Il n'y avait pas de chemin. Juste un champ nu sur le bord duquel on pouvait marcher. Les deux hommes la rejoignirent.
« Quelle valeuse curieuse !» fit Paloma, soudainement calmée par la beauté du site. « On dirait... Oui, c'est ça, on dirait un glacier. Cette valeuse a la forme d'une longue glacière. »«
Une métaphore tout à fait adaptée, mademoiselle !»
fit Nils d'un sourire. Paloma lui rendit son sourire. Ils mirent environ un quart d'heure à gravir la valeuse. Parvenu au sommet, Bergton s'arrêta.
À cet endroit, fit Bergton, Arsène Lupin croise des huttes creusées en pleine terre qui servent d'abri aux douaniers de la côte. Mais les douaniers sont des complices de Lupin.
Ils parvinrent à un chemin de ferme, parallèle au trait de côte, bordé d'arbres centenaires. Au loin, on distinguait une vaste ferme en briques rouges et pierres blanches. Bergton prit un ton plus solennel que d'habitude.
La ferme de la Neuvillette. La fin du roman L'aiguille creuse est la fin du chemin pour Lupin. Le bout de la route. Sans doute l'épisode le plus tragique de toutes ses aventures. Arsène Lupin annonce ici à Beautrelet et à la femme qu'il a épousée, Raymonde de Saint-Véran, qu'il a acheté la ferme de la Neuvillette. Qu'il va y vivre la vie respectable du hobereau. Il annonce, non sans humour, « Le gentleman cambrioleur est mort, vive le gentleman farmer !»
Paloma contempla l'étrange site où il se trouvait. Une ferme au bout du monde. Devant elle, la plaine tombait à pic dans la falaise. Vers le nord, un chemin rectiligne, bordé d'arbres, se perdait dans les immenses champs du Petit Caux sur plusieurs kilomètres. Bergton sembla lire ses pensées.
Curieux, non? La singulière ambiance de ce lieu n'a pas changé depuis un siècle. Maurice Leblanc écrivait déjà « Des plaines légèrement ondulées se déroulaient à perte de vue. Un peu sur la gauche, de belles allées d'arbres menaient vers la ferme de la Neuvillette. » D'ailleurs, Maurice Leblanc séjourna réellement dans cette ferme de la Neuvillette.
« Quel drame s'est déroulé ici ?» demanda Paloma d'une voix douce.
Lorsque Lupin, Raymond et Isidore arrivent à la ferme, ils pensent y retrouver Victoire, la vieille nourrice de Lupin. Mais Herlock Sholmes, l'ennemi juré de Lupin, est parvenu à découvrir le repère de Lupin. Il l'attend avec deux hommes devant la ferme. Lupin tire le premier et blesse Sholmes au bras, puis neutralise les deux hommes de main de Sholmes. Mais Sholmes ramasse son arme et vise à son tour Lupin. Au moment où il fait feu, Raymond se jette entre les deux hommes. Elle tombe morte aux pieds de Lupin.
Mon Dieu!
Après un court moment de folie où il manque d'étrangler Sholmes, Arsène Lupin reste longtemps silencieux devant la ferme de la Neuvillette à penser à la ferme heureuse où il aurait pu vivre paisiblement. Il écoute les chants des gens de la Neuvillette qui, au loin dans la plaine, reviennent du travail. Puis, à la nuit tombante, il dit adieu à Beautrelet. Il prend le corps de Raymond dans ses bras. Le roman se termine par ces mots douloureux. Chargé du précieux et horrible fardeau, suivi de sa vieille servante, silencieux, farouche, il partit du côté de la mer et s'enfonça dans l'ombre profonde.
Paloma, silencieuse, observa à son tour les champs immenses et la mer qu'on devinait sans la voir. Était-ce ce site de bout du monde si étrange qui avait inspiré Leblanc? Était-ce l'évocation de l'histoire racontée par Leblanc qui donnait à ce site une impression si étrange de bout du monde? Comment savoir? En tous les cas, tous les deux s'accordaient dans une puissante poésie. La voix de Bergton fit sortir Paloma de sa torpeur.
La fin de L'aiguille creuse marque un tournant dans la vie de Lupin. Avant, il est avant tout un voleur tout-puissant. Après une longue disparition, il deviendra davantage un enquêteur classique, au service des femmes qu'il croit aimer, collaborant même assez volontiers avec la police.
Il ajouta doucement. Il nous faut partir, Paloma. La route est encore longue. Il se retourna, et à ce moment seulement, Paloma aperçut deux motos rangées au bord du chemin. Deux casques rouges vifs étaient posés sur les motos. Il ramassa l'un des deux casques et le tendit à Paloma.
Vous savez conduire, j'espère.
Une moto?
Bah oui, une moto. Vous ne mettez pas de casque en voiture, je pense.
Le visage de Paloma s'éclaira d'un vaste sourire. Elle demanda, incrédule,
on fait la suite de la route en moto?
Je crois, oui. Je déteste prendre deux fois de suite le même moyen de transport. Le conservatoire du littoral nous prête ses deux motos. Nils est venu jusqu'ici avec la remorque. On les rendra plus tard. Après tout ce que j'ai fait pour eux au conservatoire, ils me doivent bien ça. En vrai, Nils ?
Nils acquiesça, toujours épaté par la vitalité de son professeur. Paloma avait souvent fait de la moto, mais elle regarda tout de même avec une certaine appréhension les 225 cm3, particulièrement crottés, sans doute plus habitués aux chemins creux littoraux qu'aux routes bitumées de Normandie. Ils saluèrent chaleureusement Nils, puis ils s'élancèrent sur le chemin de terre de la Neuvillette. En partant sur le mur de la ferme, Paloma remarqua un panneau « Gîte de France ». Moins d'un kilomètre plus tard, ils traversaient le village de Biville-sur-Mer. Le bruit de moteur des deux motos au loin avertit Bertille. Elle laissa son crochet, ajusta son châle sur ses épaules et s'approcha de la fenêtre en tirant discrètement le rideau. Les deux motos passèrent au ralenti devant elle, s'arrêtant presque dans le tournant de l'église. Elle eut le temps de les observer. Lorsque les deux motards disparurent derrière les dernières maisons du village, Bertie saisit le téléphone ébène posé sur son guéridon.
Allô ? Roberto ?
Bertie ?
Oui, c'est encore moi, ils viennent de passer.
Tu en es certaine ?
Bien entendu. Un type âgé et une gamine bronzée. Un tel attelage, ça ne court pas les rues à Biville. Ils étaient à moto.
Elle entendit Martinez rire doucement dans son écouteur.
Décidément. Tu sais où ils se rendaient ?
Tu le sais aussi bien que moi, pardi. À Ombre-Ménil, comme toi jadis. Comme toi jadis si souvent, quand tu t'arrêtais ici.
Un long silence s'installa, lourd de souvenirs.
Tu leur veux quoi, Roberto ?
Demanda enfin Bertille. Martinez ne répondit pas.
Va pas faire l'idiot, Roberto. Va pas faire n'importe quoi pour les arrêter. Ce sont de vieilles histoires, tout ceci. Ça n'a jamais rien rapporté à personne. Ça n'a toujours fait que le malheur de tout le monde.